Normal, pas normal. Et si on en parlait?
Ah oui, évidemment, nous on parle de tout ici, on évoque tous les sujets, et notamment les sujets qui suscitent de l'émotion en vous. C'est le cas de ce qui s'est passé donc dans l'enclave de Ceuta, c'est du côté donc de la frontière européenne qui est en Afrique, en Espagne précisément, où on a vu des images extrêmement choquantes de nombreux migrants qui ont pris d'assaut la frontière, et finalement ça s'est fini avec des morts. Et aujourd'hui la question, on a en droit de se la poser à
vous. Bien sûr. Évidemment, donc immigration se dit ce matin, l'Eldorado a tout pris au péril de sa vie, c'est la question qu'on se pose, et vos avis et commentaires nous intéressent ce matin en direct, 27 225 49 880. Eh bien André le disait tantôt, on va encore le rappeler, 37 migrants sont donc décédés, soit par asphyxie, des gaz lacrymogènes qui ont été lancés par les forces de l'ordre marocaines, soit bien évidemment aussi par étouffement. Il y a de nombreux blessés. Voilà, et on se dit, bah tiens, c'est vrai que ces jeunes-là se disent, tiens, allez vers les horizons occidentaux, les horizons européens, leur ouvre des voies pour une réussite hypothétique même d'ailleurs. Est-ce que tout ça, au péril de sa vie, ça vaut vraiment la peine, ça vaut vraiment le coup? Et c'est la question, bien évidemment, qu'on se pose ce matin.
À 27 225 49 880, vous voulez témoigner là-dessus ce matin, n'hésitez pas à le faire. Quant à nous, ici dans ce studio, nous continuerons d'en parler, d'ouvrir le sujet, le débat, pour comprendre ce qui s'est passé de ce côté. Ici, je rappelle simplement que beaucoup d'entités, beaucoup de personnalités appellent à l'ouverture d'enquêtes pour comprendre exactement quel est le niveau de responsabilité des uns et des autres dans ce drame. Mais nous, nous voulons donc aborder la chose dans le sens de, voilà, est-ce que pour aller ailleurs, il faut emprunter tout type de voie, toutes sortes donc de chemin. Et c'est la question qu'on peut se poser ce matin dans le cadre donc de et si on en parlait, Lina.
Tout à fait.
Oui, c'est triste quand même. Voilà, déjà, faut voir que parce qu'il y a des enfants là-dedans, il y en a qui partent avec leurs enfants. Mais moi, j'indexe dans un premier temps notre système, parce que toutes ces personnes qui font mains et pieds pour rejoindre l'Occident, c'est parce qu'elles estiment qu'ici les conditions ne sont pas favorables. Voilà, moi je vois des gens qui sont prêts à débourser pratiquement 3, 4 à 5 millions. Voilà, à remettre.
Ah ben, mais c'est là aussi on se pose la question.
Justement.
Si vous êtes à Abidjan, que vous avez 5 millions, bah,
ben,
vous
pouvez développer une activité.
Mais justement, ils se disent, ils se mettent en tête qu'étant là-bas, ils auront bien plus. La vie sera meilleure. Donc, ils se permettent d'économiser 3, 4, 5 millions. Et après plusieurs, et ça c'est après plusieurs tentatives.
Non, je comprends très bien pardonnez-moi si je coupe, c'est que évidemment quand on dénonce une situation dans laquelle les choses sont compliquées et qu'on arrive malgré tout à économiser 3-4 millions, ça veut dire que notre vie n'est pas si compliquée que ça en réalité. Moi c'est ça, parce que moi les gens que je vois à travers les images qu'on a pu voir, pour moi c'est vraiment des gens qui sont désespérés, qui n'ont aucun espoir ici en Afrique, dans leur pays respectif. Mais savoir que il y a beaucoup parmi eux qui ont dû payer des passeurs rubis sur l'ongle pour pouvoir accéder jusqu'aux grilles donc des frontières.
Mais tout le paradoxe est là, André. Tout le paradoxe est là, parce que justement ces personnes, comme on le dit, qui ont perdu espoir justement dans un lendemain meilleur chez eux à domicile, ben ces personnes réussissent justement à épargner des sommes qui sont somme toute on va dire considérables, qui pourraient leur permettre évidemment de se réaliser chez eux, parce que ce que demandent justement les passeurs quand on
regarde, on analyse et tout,
justement quand on par l'Afrique du Nord là,
effectivement, par la Libye
et consorts, mais les gens ils te demandent pas de petites sommes, ça va chercher dans les millions en fait. Donc ça veut dire que toutes ces personnes aujourd'hui qui sont des candidats, qui s'en vont justement pour cette immigration, pour cet exil là, ils gagnent, ils trouvent quelque chose ici déjà. Mais bon, on se demande, mais pourquoi n'arrive-t-il pas, en ayant trouvé quelque chose, en ayant trouvé des moyens, en ayant trouvé ces millions-là, à développer une activité qui pourra leur permettre de vivre comme ils le souhaitent, comme ils le veulent et comme ils le sentent véritablement? Rapidement, avant de donner la parole Pardon, mon cher de Perpignan. Rapidement, justement, pour revenir encore au drame de Melilla, ce qui s'est passé, ce qu'on apprend, c'est qu'il y a 2000 personnes, 2000 migrants, qui se sont levés Oui. Munis de gourdins.
Et ça, il faut
bâtons.
Le dire, parce qu'on a vu des images. Mais
justement.
Bon, après, beaucoup pourront dire, non, c'est la façon dont ils ont été traités, tout ça. Mais une chose est sûre.
Oui, oui, ils sont allés
dans un pays civilisé, quand plus de 2000 personnes s'arment de gourdins, de cailloux,
de bâtons,
de toutes sortes d'armes pour espérer donc ouvrir la porte pour aller vers leur Eldorado. C'est sûr que, à un moment, il faut que la police fasse le maintien de l'ordre et ça peut déboucher à des drames. Mais c'est
cela
pas,
ne justifie
ça,
pas.
Ça ne justifie pas, voilà. Ça ne peut pas dédouaner non plus la police qui a le droit, n'inspire de faire le maintien de l'ordre en protégeant les droits humains. Nous avons un auditeur très rapidement avec qui nous allons pouvoir échanger sur la question. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Comment allez-vous?
Je vais bien, merci, et vous?
Ça va, vous êtes madame?
Je suis Marie-Christelle Amon.
Marie-Christelle Amon, comment allez-vous? Vous appelez Dabengourou.
Je vais très bien.
Ah ben, cela nous fait plaisir.
Alors, je m'intéresse tout particulièrement et je voulais donner mon avis.
Oui, en tout cas, merci de nous écouter depuis Abengourou. On espère que sur la fréquence, on va arriver chez vous très très bientôt à l'est. Mais déjà, vous arrivez à nous écouter par les moyens d'internet. Cela nous fait énormément plaisir. Alors, Marie-Christelle Amon, dites-nous pourquoi ce sujet vous intéresse. Vous êtes jeune?
Oui, je suis jeune et je connais des personnes qui malheureusement ont dû passer par ces moyens-là pour pouvoir immigrer vers l'extérieur en cherchant l'Eldorado.
Ouais.
Faut dire que si ces personnes arrivent à épargner 2, 3, 4 millions, comme vous le disiez tantôt, et ne pensent pas investir dans notre pays, et pensent trouver un meilleur investissement ailleurs, c'est justement parce que au niveau même de notre pays, quelles sont les mesures qui sont prises par l'État pour soutenir les petits entrepreneurs? Quand on sait que la charge fiscale est un clou pour les entrepreneurs. Donc, le monsieur s'est dit, c'est vrai, j'ai lutté, j'ai pu avoir 2-3 millions, mais si j'investis ici, je ne pourrai rien en tirer parce que ils vont m'étouffer dans l'œuf avec la charge fiscale, toute la pression de la société. Autant pour moi partir ailleurs et puis faire, comme on le dit, un gainer des jossies pour pouvoir tirer mon épingle du lot. Voici comment ces personnes-là
réfléchissent et réagissent.
Voilà, réfléchissez, réagissez. Donc, plutôt que de dire que l'Eldorado, ce n'est pas ailleurs, il serait mieux pour nous de créer les conditions pour que les entrepreneurs, aussi petits soient-ils, trouvent leur place véritable dans notre société.
Alors, en tout cas, pour résumer ce que vous venez de dire à notre Miss Amon, c'est que vous pensez que la responsabilité de l'État est grande dans comment susciter l'espoir et comment maintenir des gens qui, malgré tout, sont des personnes engagées. Parce que réussir à économiser autant d'argent, ça veut dire que c'est des gens qui peuvent s'engager durablement. Donc, premier responsable, l'État. Mais c'est à quel moment, justement, on essaie de se dire que la vie est difficile, il faut lutter, et que même s'il y a la pression fiscale, beaucoup de jeunes s'engagent. Enfin, prenons le cas de l'Est de la Côte d'Ivoire. Hein. On connaît ce qui se passe à Nibilé-Cro avec ses fermes, que ce soit aussi du côté d'Abengourou. Donc, il y a des activités génératrices de revenus. Mais les jeunes peuvent quand même lutter pour y rester.
Oui, tout le monde tente, mais tout le monde ne réussit pas forcément. On n'a pas tous forcément les bons conseils. Et quand on sait que on a des personnes peut-être qui sont parties, qui arrivent quand même à nous apporter de l'argent, on croit en ce rêve-là de se réaliser là-bas. Et si ces jeunes ont pu épargner jusqu'à 3-4 millions, c'est qu'ils ont forcément réalisé de petites activités qui leur ont permis de mettre de côté ces gains-là. Mais quelles ont été leurs réalités pendant qu'ils étaient en activité? Au point de dire, c'est vrai, je fais ça, mais mieux sera pour moi d'être ailleurs.
Bon,
il faut que quelque part aussi, les mesures d'accompagnement des petits entrepreneurs dans notre pays soient revues à la hausse, que la pression fiscale soit revue à la baisse, pour que les jeunes soient encouragés en entrepreneuriat, qu'ils s'y sentent à l'aise, pour que ça puisse faire développer notre pays.
Ben en tout cas, vous parlez, j'allais dire en connaissance de cause, vous êtes dans le domaine de l'entrepreneuriat, vous avez investi précisément dans quelque chose où vous sentez que la pression fiscale pourrait être quelque chose de très dissuasive.
Mais je m'informe beaucoup sur la question, je suis dans le domaine de la fiscalité, je n'ai pas particulièrement investi, mais j'ai parfois conseillé des personnes qui s'y sont engagées.
Et donc c'est quelque chose que vous connaissez bien.
Bien sûr.
Très bien. Donc, pour terminer avec vous là-dessus, hein, quand vous avez vu ces images donc de ces jeunes Africains par terre comme ça, complètement fracassés, est-ce que vous vous dites finalement, est-ce que ça vaut le coup d'aller braver justement des frontières alors qu'on peut lutter ici pour, comme vous, je le dis là, pour faire baisser la pression fiscale. Vous voyez le parallèle que je vous crée, c'est-à-dire toute cette énergie qu'on met à aller lutter à la frontière, c'est une énergie qu'on pourrait mettre ici sur place pour faire avancer les choses.
Effectivement. En réalité, il faut dire que s'il y a une chose qu'on ne veut pas retirer à un individu, c'est bien son rêve.
Ça, c'est clair.
Et la meilleure manière de faire comprendre à ceux qui rêvent d'aller à l'extérieur pour se réaliser, la meilleure manière de leur faire comprendre que l'Eldorado, ce n'est pas forcément à l'extérieur, c'est de créer les conditions favorables. Parce que ce n'est vraiment pas intéressant de voir nos frères et sœurs dans les conditions dans lesquelles ils vont. Au péril même de leur vie, juste pour pouvoir espérer quelque chose que parfois ils n'arrivent même pas à trouver. Si c'est son rêve, ce serait difficile de le conscientiser en lui disant toujours l'Eldorado ce n'est pas là-bas. Il faut plutôt réagir, poser des actions qui créent confort national pour que les nationaux restent au pays pour se réaliser.
En tout cas, Miss Aman, votre contribution est super précieuse.
Franchement.
Nous en sommes extrêmement content, même, je dirais pas flatté, parce qu'évidemment, nous sommes conscients que la jeunesse ivoirienne, quand elle veut prendre la parole, peut prendre la parole pour dire des choses sensées.
Tout à fait.
Mais en tout cas, nous vous remercions de votre fidélité. N'hésitez pas à nous appeler quand vous en aurez la possibilité, puisque ici même, ce que nous essayons de faire, c'est de faire parler toute cette jeunesse, c'est de créer le dialogue pour que les uns et les autres puissent donc dire ce qu'ils ont sur le cœur. Lynn, pour terminer avec vous.
Oui, je voulais dire, je vais aller un peu plus loin. Alors, comme elle a dit tout à l'heure, c'est parce qu'ils espère investir mieux ou bien aller faire un job qui va leur permettre d'avoir un peu plus de revenus et tout, parce que ici investir c'est difficile. Et quand on prend dans le sens inverse, on constate que de l'autre côté, quand ils viennent, ils arrivent facilement à s'intégrer, ils arrivent facilement à avoir des marchés à investir. Est-ce que à ce niveau là nos autorités pourraient pas trouver des conventions, c'est-à-dire on essaie de rendre ça équitable, d'équilibrer les choses, l'Occident et l'Afrique, voilà.
Ça demande beaucoup de travail, voilà. Mais je pense qu'on peut y arriver. La sensibilisation, ce n'est pas forcément de parler, mais il faut poser des actions concrètes qui rassurent.
Bien sûr.
Donc, on compte vraiment sur nos autorités et on demande à nos jeunes aussi de croire en ce qu'est l'Afrique, en ce que possède l'Afrique. Et de patienter, d'espérer toujours, de frapper toujours à la porte, peut-être un jour la porte du bonheur s'ouvrira pour nous.
C'est vrai.
Je suis avec monsieur qui voudrait intervenir si possible.
Oui, bien sûr, on veut l'entendre.
Voilà.
Bonjour.
Ouais, bonjour, monsieur. Vous êtes monsieur?
Je suis monsieur Hamon.
Alors, monsieur Hamon.
Après, madame Hamon, c'est monsieur Hamon.
Alors, on a entendu justement madame Hamon sur... Est-ce que vous partagez son avis ou vous avez plutôt une nuance à apporter au débat?
Clairement, je partage son avis.
Ouais.
Et justement, je souhaiterais même apporter quelques points encore qui vont, disons, conforter son ascension.
Mmh.
Dans le cas, par exemple, des VTC, par exemple, les taxis Uber et autres.
Ouais. D'accord.
Bon, j'ai plein d'amis, par exemple, qui étaient plutôt bien placés pendant qu'on était au pays, qui ont fait, par exemple, ce pari-là d'aller, je dis n'importe quoi, en France ou aux États-Unis, mais ils s'en sortent. Ils ont déjà construit des maisons ici que j'ai même pas, enfin, auxquelles beaucoup de personnes qui sont en griffe aisées n'ont pas forcément accès.
Ouais.
Simplement en conduisant un taxi. Parce que là-bas, les gens ont pris le temps de mettre en place quelque chose véritablement qui fait rêver les uns et les autres. Aujourd'hui, vous prenez par exemple la jeunesse se plaint parce que dès lors que vous entamez une activité qui donne l'impression que beaucoup de personnes s'y intéressent, c'est peut-être fait à dessein ou justement pour mieux organiser le secteur, mais on a plus l'impression qu'à chaque fois au niveau de l'État, il y a des mesures qui sont prises qui freinent cet élan-là.
Ouais.
Quand vous prenez par exemple... je reste toujours dans le cas des VTC.
Mmh.
Vous voyez, les dernières règles qui ont été prises, c'était peut-être bien, mais je me dis que le timing et la manière de rendre ça, par exemple, aux populations, vous avez pas mal de jeux qui ont commencé à investir dans les, comment on appelle ça, Yango et autres.
Oui. Il n'y a pas de problème.
Allons-y.
Voilà. Vous avez pas mal de gens, moi je connais des gens qui ont payé les petits véhicules Suzuki, machin, à foison, mais aujourd'hui, ils se retrouvent à faire quoi de ces véhicules-là? Bon, quelqu'un comme ça qui, justement, en grippe, n'est pas là à l'école, qui trouve un tuyau dans lequel il semble plus ou moins s'en sortir, et avec, justement, ce tuyau-là, il il emmène avec lui pas mal de gens qui trouvent un travail, qui arrivent à se réaliser, machin, tout et tout. Et quand on prend une règle comme ça, elle a peut-être son sens, comme je le dis, parce que moi, je connais pas les tenants, les aboutissants. Ouais. Mais tel que c'est pris, le timing, justement, au moment où tout le monde s'y intéresse, et le contenu même de la règle, pendant qu'on voit bien d'autres véhicules du même type circuler dans le cadre du transport, je me dis, ça décourage.
Ouais.
Ça décourage parce que, justement, étant en Europe, c'est une activité qui est génératrice de beaucoup de revenus. Ces gens-là qui vont, par exemple, comment croyez-vous qu'ils s'en sortent? Mais c'est en travaillant dans les McDo, c'est en faisant ce type d'activité, c'est en faisant les babysitters, c'est des petits métiers qui sont non-sens chez nous, mais qui en réalité là-bas leur permettent d'être des personnes. Donc quand vous avez quelqu'un qui part en Europe, par exemple, qui vous vend un rêve, qui justement dans son rôle de babysitter ou bien de taximètre, arrive à soutenir toute une famille depuis l'Europe, alors que vous êtes des cadres ici, vous n'arrivez même pas à donner 100 000, 200 000 quoi à vos frères à côté de vous.
Ouais.
Écoutez, moi je suis un petit prêt, je vois ça, mais il n'a pas besoin de
me
je suis déjà gonflé à plein, voilà.
En tout cas, pour finir avec vous, ce qu'on a retenu de ce qu'a dit donc votre dame et ce que vous dites vous-même, c'est que le rôle de l'autorité publique, le rôle du gouvernement pour créer, pour susciter cet espoir-là est essentiel et même capital pour permettre à tous ces jeunes-là de rester, de croire justement des lendemains meilleurs, puisqu'ailleurs, le cadre est créé. Si on peut aujourd'hui faire une activité et s'en sortir à l'extérieur, cette même activité peut aussi ici même marcher. Et si ça ne marche pas, c'est qu'il y a deux approches différentes qui plombent les initiatives, qu'on soit d'un côté de la Méditerranée ou de l'autre. Ah ben, en tous les cas, on a compris votre message. Exactement. Et c'est très, très important, ces contributions que vous venez d'apporter justement au débat. Nous vous remercions en tous les cas d'avoir choisi Life Radio pour essayer de porter ce genre de sujet. Nous, on vous retrouvera très bientôt. N'hésitez pas, le numéro de téléphone est ouvert. Encore d'autres auditeurs qui veulent réagir. On prend un dernier et on finit là-dessus. Merci à vous et à bientôt. Voilà, on va terminer avec un dernier auditeur sur le sujet. Bonjour. Ah, il est parti. Bon, écoutez, tant qu'il est parti, ça nous arrange.
Bah, voilà. Une
pause pour écouter un peu de musique. Soyez sûr d'une chose, cette radio sera toujours ouverte, même si je sais que l'auditeur continue de nous appeler. On n'aura pas la possibilité de le prendre maintenant. Marquons notre pause et retrouvons-nous dans un court instant pour continuer les échanges autour de notre vie commune.
Yes.
Normal, pas normal. Et si on en parlait ?
Life Radio 107.7, la radio comme tu l'entends.